Si l'on en croit la troisième édition du baromètre 2021 CSA Havas Paris sur le rapport des Françaises et des Français au podcast natif, l'écoute de podcast natif concerne désormais un tiers des Français âgés de 18 à 64 ans. C'est un chiffre en évolution de 10% depuis 2019, entre 2019 et 2021. Bonne nouvelle, le podcast a mis du temps à s'installer dans les habitudes des Français, mais le pli semble être pris. Et si on se concentrait un peu sur celles et ceux qui font que les podcasts existent, sur celles et ceux qui créent avec beaucoup d'envie et de plaisir ces petites capsules audio dont les Français commencent à raffoler. Et si on se posait la question de savoir comment ces créateurs de contenu audio peuvent vivre de leur passion? Et s'il y avait la possibilité de s'éloigner de la pub et de faire payer ses auditeurs pour le contenu? Ça vous paraît difficile? En tant qu'auditeur, vous n'êtes peut-être pas prêt à rétribuer les créateurs de contenu. En tant que podcasteur ou podcasteuse, ça vous semble super risqué. Pour en savoir plus et bien comprendre comment ça marche de se lancer dans le podcast payant et ce que ça change dans le modèle, l'invité du jour est Alexis Imeros, le fondateur du podcast Le Son du Désir, podcasteur qui a fait le choix de passer à l'acte de se lancer dans le podcast payant. Bonjour Alexis.
Salut PPC.
Alexis, première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Se lancer dans le podcast payant, ça change quoi et ça a changé quoi pour toi?
Se lancer dans le podcast payant, c'est passer de podcasteur à entrepreneur. Et en fait, c'est pas du tout la même aventure. Être podcasteur, bah, finalement, on connaît, on enregistre des choses, on les met à disposition, on fait un peu de promo. Et être entrepreneur, bien, c'est beaucoup plus que ça. C'est gérer un problème, des problématiques de distribution, de site internet. C'est gérer des problèmes de davantage de promotion, de marketing, découvrir des nouvelles choses comme les abonnements. Tiens, comment ça fonctionne? Tiens, où est-ce qu'on peut créer cela? Quelles sont les ressources? C'est avoir des problèmes de banque. Enfin, bon, bref, c'est une super aventure que connaissent tous les entrepreneurs en France et un peu partout dans le monde.
Dans ta casquette, tu dis donc effectivement, c'est passé de créateur de contenu à entrepreneur, de podcasteur à entrepreneur. Ça change quelque chose dans ta façon de concevoir tes contenus, sachant que maintenant tu dis, bah, il faut que je pense aussi à ce que ça va rapporter dans mon entreprise?
Non, mon capitaine. En réalité, depuis le début, c'est-à-dire l'épisode 1 du Son du Désir, je sais qu'à un moment, eh bien, il y aura une façon de rendre ça accessible d'une autre façon que par le podcast. Ça ne veut pas dire de passer en modèle payant, mais c'est de le rendre accessible d'une autre façon. Parce que je me suis dit, tiens, ben, sur ce sujet, qui est un sujet de la sexualité, qui est un sujet tabou, eh bien, j'ai toujours été très étonné qu'on puisse en parler directement, on puisse le mettre à disposition aussi facilement et en accès libre à tout le monde. Donc, je suis très précautionné depuis le début tout en essayant d'attirer le plus grand monde. Donc, finalement, le fait de passer sur une plateforme propriétaire, c'est-à-dire qui m'appartient finalement, qui ne soit pas brandé par Patreon, qui ne soit pas brandé par Tipeee, qui sais-je encore, eh bien en fait, permet de... Enfin, c'est un peu anticipé plutôt depuis un bon moment.
Donc ça, c'est, tu l'avais dans le départ, dans ton aventure, ce passage à l'acte, à un moment donné, tu dis allez, je franchis le Rubicon, je vais passer d'une période totalement gratuite à « je vais entretenir une autre relation », puis tu nous expliqueras ce que tu as fait, comment tu y es passé.
Les 10 premiers épisodes, Le Son du Désir, je les ai enregistrés avec un téléphone. Le game, pour moi, c'était vraiment de me dire « si tout ce que je fais peut être enregistré avec un téléphone, peut être monté avec un téléphone, peut être mis en ligne avec un téléphone, et si avec ça j'arrive à avoir une communauté », ça veut dire que le truc est viable. Le podcast a vraiment bien marché. Je pense que quand on arrivait au 10e épisode, j'avais au moins 50 000 écoutes par mois, ce qui était pas mal. Et là, je me suis dit, bon, ok, je peux m'acheter un micro. Ensuite, j'ai travaillé la presse, même très tôt, j'ai travaillé la presse en envoyant des communiqués de presse à tous les journalistes que je pouvais trouver sur Twitter, sur LinkedIn. tous les journalistes qui traitaient de la question sexo. Et je voyais ça augmenter, je voyais les articles augmenter, les followers en podcast gratuit augmenter. Et j'ai testé tout un tas de plateformes, j'ai testé du Patreon, j'ai testé, sans jamais mettre en ligne, mais en testant offline. J'ai testé des trucs qui s'appellent Supercast aux États-Unis, enfin, j'ai testé plein de trucs. Et à un moment, j'ai trouvé mon prestataire qui irait bien. Puis, à la faveur d'un article sur Télérama, où j'ai vu du jour au lendemain tous les compteurs exploser en termes d'écoute, je me suis dit, tiens, là, c'est le bon moment. Dans la journée, j'avais coupé tous les flux sur mon truc RSS et limité tous les épisodes à 3 minutes, 4 minutes. Mm-hmm. Voilà. Pour laisser les épisodes en entier uniquement à disposition des personnes qui décidaient de s'abonner de façon payante.
Donc, agilité et stratégie de frustration un petit peu hein, pour faire basculer sur la plateforme payante. Je vais prendre une première question, c'est celle de Jean-Emmanuel. Est-ce que le thème de la sexualité n'est pas un exercice d'équilibriste entre la vertu des réseaux et la pudeur publique ? Comment tu réagis à cette question ?
Pire que ça, c'est même pas équilibriste parce que c'est totalement déséquilibré. C'est plutôt, on est sur une montagne, on se tient à un fil et on dévisse, et puis, mais on se tient quand même bien à la corde et on essaie de remonter tout le temps. Sauf que les parois sont glissantes. J'espère que l'image, elle est très parlante, mais on ne se bat pas à armes égales contre les réseaux sociaux. On est chez quelqu'un et depuis le début, j'en ai conscience. Finalement, on n'est pas chez soi, même si notre compte Instagram, notre compte Twitter, finalement, est arboré nos couleurs. On n'est pas chez soi, on doit travailler avec les règles des autres, et les règles, elles sont très strictes. On ne parle pas de sexualité, que ce soit une sexualité débridée comme une sexualité dite positive, et je m'inscris dans ce mouvement, une sexualité positive, qui prônent des valeurs saines, qui prônent des valeurs bienveillantes, qui prônent des valeurs égalitaires, mais on n'est pas chez soi. Donc du coup, à la première réaction du réseau social, que ce soit motivé par des haters qui sont en nombre, des jaloux qui existent aussi, que ce soit motivé par le hasard, la frustration de quelqu'un, voilà, juste comme ça, ben on peut sauter.
On peut sauter, d'un coup, boum, plaf, c'est fini, et le game s'arrête. Donc toi, tu as fait le choix de dire, je prends ma liberté, je veux être chez moi, donc t'as fait quoi ? Tu as monté ton propre site, ton prestataire, là, ça permet de faire quoi en fait ?
Alors, c'est un presque chez moi. C'est un presque chez moi parce qu'en fait, j'ai trouvé un prestataire qui héberge des contenus numériques et qui aide à la monétisation, qui aide à gérer l'interface bancaire. Ça veut dire quand même qu'il faut prendre son compte Stripe, il faut prendre son compte PayPal, il faut montrer patte blanche à ces deux organismes, ces deux sociétés. Et puis, cette mini plateforme, ce prestataire qui va gérer ses comptes numériques, en fait, c'est un truc, c'est un peu comme un moteur sans carrosserie autour. Donc, du coup, il faut vraiment tout faire soi-même, de l'intégration à la mise à disposition. Mmh. Et c'est extrêmement rudimentaire. C'est là, en fait, finalement, que rien à la première question. ça change quoi ? Bah, ça change qu'il faut apprendre à faire un site internet. Moi, j'avais vraiment envie de tout faire tout seul. Donc, j'ai fait mon site tout seul. J'ai fait mon petit WordPress. J'ai lancé mes trucs. Il y a des choses que je ne comprenais pas du tout, donc j'ai appris un petit peu comment ça marche l'HTML, comment ça marche les feuilles de style, pour essayer d'intégrer la solution des cartes bancaires. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on apprend sur le tas, et dont on apprend sur le tas quand ça ne marche pas non plus.
Voilà. D'accord, donc c'est plutôt bonne chose. Donc c'est aussi learning by doing dans ce système-là. Ouais. Tu as combien de personnes qui ont souscrit, alors qui sont abonnés ? Tu appelles ça comment ? Des abonnés ?
Je les appelle des abonnés VIP. Quand on se lance dans l'aventure, on passe de plus de 70 000 et 90 000 écoutes par mois. en podcast gratuit à le premier mois, poum, 100 abonnés payants. Ça réveille hein, d'un coup. Et, parce que c'est vraiment peu. Et en même temps, c'est incroyable. Même à partir du premier abonné, de se dire oh, wow, en fait, il y a quelqu'un qui est capable de mettre 4,99€ dans ce que je fais. J'ai réussi à motiver une personne. Mais la première personne qui s'est abonnée, c'est une surprise, parce qu'on se dit mais mince, on ne la connaît pas. c'est juste incroyable. 100 personnes, bah c'était, c'est pas beaucoup, mais c'est encourageant. Et puis ça augmente et ça augmente et ça augmente. On rencontre des périodes qui sont des périodes euphorisantes, des périodes qui sont nettement moins. C'est une vraie aventure dans le sens où, effectivement, moi, l'objectif pour la fin de l'année, il est de 1000 abonnés. Voilà. C'est à la fois pas beaucoup et, voilà. Et à la fois à l'échelle d'un podcasteur. C'est hyper... moi, je trouve ça plutôt cool. Mais ça fait que le projet n'est pas gagné. C'est-à-dire que pour assurer une longévité au projet, il faut scaler.
comme diraient les start-upers.
Exactement. Mais on est dans une logique de start-up, mais tout en essayant d'avoir à la fois des valeurs parce qu'on traite d'un contenu qui est bien particulier, qui touche à l'intimité des personnes et qui rend un service. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont abonnées au Sommet du Désir et qui me disent mais en fait, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Et je dis oui, mais ce sera impossible. Mais en fait, on est vraiment là-dedans.
Ça peut se tenter, ouais. Hein, ça peut se tenter ce remboursement par la Sécu.
Je ne me lancerai pas là-dedans. Ouais. Mais
bon, t'as choisi d'autres combats. T'as choisi d'autres
exactement.
Combats. Comment tu fais justement pour scaler, de passer de 100 à 1000, quelle stratégie mets-tu en place pour y parvenir?
Ben, c'est là qu'on rejoint finalement cette question de l'auditeur tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la stratégie, ben, c'est de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on est à la merci de ces problèmes d'algo, de ces problèmes de population qu'on va rencontrer en face, qui ne sont pas vraiment en phase avec ce qu'on fait, et qui signalent les comptes des réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit... même j'ai été signalé sur Apple Podcast, et mon podcast avait disparu d'Apple Podcast.
Non.
Si, ça, c'est possible. Mais il est revenu. Mais c'est comment on fait ? Ben, on teste plein de trucs. On va tester de la publicité sur Facebook jusqu'à se faire virer de ça. On va tester sur les annonces Google, dans les annonces Search. On va tester de la publicité pour le podcast qui s'affiche au milieu d'articles de presse. Voilà, on va tester toutes sortes de publicités. On va travailler énormément au niveau des relations presse en essayant de toucher le maximum de journalistes possible. Et c'est pas simple. On va contacter des influenceurs et on va essayer de les payer avec les moyens qu'on peut mettre, parce que également ça coûte très cher, hein. C'est-à-dire que quand j'ai des influenceurs lifestyle, des formidables influenceurs, mais qui me disent bon, bah ouais, dans mes habitudes, c'est que ce soit 5000 euros pour 3 slides de story, bah, je peux pas mettre ça.
Bien sûr, ouais.
Même 3000, tu vois, c'est, voilà. Ouais. Et on est dans ces problématiques-là, c'est-à-dire que on a une visibilité qui est très compliquée à obtenir. On est hyper allez, un peu shadowban sur les réseaux sociaux, limité. On passe par des influenceurs qui certains acceptent de parler du projet, ils sont formidables. On met les moyens qu'on peut, qui sont maigres, mais c'est une aventure qui, j'en suis sûr, sera florissante.
Ouais, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on sent que tu... parce que justement, c'est frugal, parce que justement, il n'y a pas d'argent, en fait. Hein, ça t'amène à être hyper créatif, à tester plein de choses, à finalement travailler vachement en ligne, en se disant, bah, comment je peux atteindre mon objectif et je vais rentrer par toutes les portes. C'est un peu comme l'eau, ça peut passer partout. C'est assez passionnant comme aventure, je trouve. Je trouve ça vraiment bien.
Merci. C'est un artisanat.
C'est de l'artisanat. Aujourd'hui. C'est chouette de faire, d'être artisan. C'est vraiment chouette, ça.
Oui, avec la frustration que ça peut représenter, c'est-à-dire que c'est très sympa et en même temps on voit des gros acteurs, c'est-à-dire j'entends des boîtes qui ont levé plusieurs millions d'euros à l'étranger et qui arrivent sur le même secteur et on se dit tiens mince, on joue pas armes égales, Alors, il y a le soutien des personnes qui sont déjà abonnées et qui disent « Oui, mais en fait, ce que tu fais, c'est absolument différent. Regarde ça pour cette telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. » Mais voilà, être entrepreneur, c'est également savoir se structurer et apprendre des compétiteurs qu'on a en face de soi, voir comment ils ont fait et puis finalement, essayer de se mettre à l'auteur. C'est pour ça que finalement, je reprends ma casquette d'entrepreneur et je me dis, tiens, je vais partir en levée de fonds bientôt pour développer ce projet davantage.
Donc, amener un peu plus de sous pour que ça puisse flotter. Exactement. Ça, j'entends bien. Ta communauté joue à fond le parrainage, ils font du bouche à oreille, ils t'aident à recruter de nouveaux abonnés. Comment ça marche?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on est dans des sujets qui touchent à l'intime. C'est très difficile quelquefois de parler de quelque chose qui nous est intime. C'est un peu, étant donné que c'est un podcast qui est à la base, c'est un amant virtuel. Même si aujourd'hui sur la plateforme, j'ai proposé des audios de relaxation, j'ai proposé des podcasts avec des sexologues qui vont parler de diverses problématiques. À la base, on parle d'un amant virtuel. Du coup, est-ce que vous avez envie de parler de votre amant avec votre conjoint? J'en doute, sauf dans un couple très très libre. Et avec ses amis, oui, mais pas toutes, ça dépend lesquelles. Donc le bouche à oreille, il est un peu, il est assez restreint malgré tout. Mais les personnes jouent le jeu dans le soutien, c'est-à-dire en envoyant des messages, en essayant de participer au mieux, en tout cas sur les réseaux sociaux, dans les réponses. Et puis... Également, moi, je fais lire les contenus à une sélection des abonnés avant qu'ils soient enregistrés, justement pour avoir une sorte d'approbation et d'avis pour que le contenu il soit adapté aux personnes qui vont le recevoir.
C'est une bulletine publique, comme dirait l'autre, c'est bien ça. En perspective, tiens, allez, si on se projette un tout petit peu, je suis une gentille petite fée qui a une baguette magique. Alexis, dans 10 ans, c'est quoi le son du désir?
Avant, j'espère, avant 10 ans, c'est vraiment d'ici 3 ans, ce serait chouette que le son du désir soit la même chose, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on soit passé de 1000 abonnés à peut-être 15 000, 20 000, ça, ce serait très chouette. Et puis, et qu'on ait beaucoup plus de contenu, qu'on ait réussi à avoir suffisamment de moyens pour pouvoir se développer au niveau marketing, puis se développer au niveau équipe. Typiquement, aujourd'hui, moi, je travaille avec des monteurs qui sont formidables, je travaille avec des auteurs, des autrices géniales qui m'aident à créer ce contenu aujourd'hui, parce que moi, ça me permet d'écrire d'autres choses, même si à la base, je faisais tout. Voilà, c'est travailler avec des nouveaux comédiens également. Je suis en train de chercher des voix masculines et puis des voix féminines également. Donc, c'est tout cet ensemble de travail. D'ici 3 ans, réellement, je pense que que je fais au niveau artisanal sera beaucoup plus développé. Tu as des sous PC?
On te souhaite tout ça. On va prêter sa voix aussi déjà. Voilà. Non, on te souhaite tout ça. Mille merci à toi, Alexis, d'être passé dans cet épisode du podcast ce matin. Aventure passionnante et bravo pour ce passage à l'acte et ton expérience d'entrepreneur sur le podcast. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Demain matin, on va parler de leadership responsable. L'invité du podcast sera Serge Papin. C'est l'ex-président directeur général du groupe Système U. Il est maintenant consultant et conférencier. On va parler de ce leadership responsable. Tu vas voir, c'est fabuleux. Si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou. Ça fait du bien, puis si tu as écouté jusqu'ici, ça fait un bien fou aussi à l'algorithme. Le taux de complétion est magnifique. Voilà, un commentaire, c'est du bonheur. Et on se retrouve demain matin. Surtout, 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 ne lâche rien. Sois heureux. On se retrouve en forme demain matin. Ciao, ciao.